Chapitre 3. Le lendemain, en chemin vers Sumpton Harcourt, Agatha et Charles se sentaient tous deux de fort mauvaise humeur. Rapporter l'incident de la mystérieuse apparition à la police leur avait pris une bonne partie de la nuit, moment d'autant plus pénible qu'ils avaient été interrogés par Wilkes, qui était furieux. En raison de l'intérêt que la presse internationale portait à l'affaire, il avait exigé d'être tenu informé du moindre indice, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Mais personne n'avait cru bon de le prévenir que le présent indice impliquait sa bête noire, Agatha Raisin. Et comment ne pas la détester? Elle qui, pour résoudre un crime, s'agitait en tous sens, prenait des risques inconsidérés pour elle-même et pour les autres, et comptait surtout sur son intuition. Cerise sur le gâteau, elle s'arrangeait toujours pour que les journalistes sachent qu'elle avait élucidé l'affaire avant la police. Wilkes avait également interrogé Alf Blugsby. Il rêvait d'arrêter ce maudit Charles Fraisse pour outrage à la pudeur, mais savait qu'il connaissait bien le commissaire en chef. Alors il passa ses nerfs sur eux en les interrogeant encore et encore. La journée était sombre et le ciel gris déchiré par des nuages en lambeaux ballottés par de grosses rafales de vent. « Regarde le fameux arbre !» dit Agatha. « À vous donner la chair de poule !» fit Charles. « Tous ces cottages au toit de chaume, incroyable que ce hameau ne soit pas dans les guides !»« Il n'y a rien pour amuser les touristes ici, pas de boutique de souvenirs, un malheureux pub plutôt sinistre d'ailleurs. »« Oh, tu as vu comment il s'appelle ? Je préfère ne pas savoir. »« Le pendu ! Regarde là-bas !» Un panneau qui avait connu des jours meilleurs se balançait dans le vent. On y voyait un homme qui montait à l'échafaud. « Sais-tu qui a été pendu ?» demanda Charles. « Aucune idée. Tu parles d'une détective ? Tu crois que j'ai eu le temps ?» lança Agatha d'une voix rageuse. « Tiens, voilà le presbytère. » Charles sortit de la Peugeot d'Agatha. « Ma parole, » dit-il, « c'est comme vivre dans une jungle de lianes ici. Je parie que si on enlevait le lierre, les murs s'écrouleraient. Les pierres doivent être complètement colonisées. Tu comptes m'aider à résoudre ces meurtres ou tu vas passer la journée à blablater ?» se plaignit Agatha. « Je me permets de te rappeler que je ne suis pas ton employé. Si tu as besoin de moi et que tu es disposée à être courtoise, tu me trouveras au pub. » Agatha aurait voulu le retenir en s'excusant, mais bizarrement, les mots ne lui vinrent pas. Elle n'avait jamais éprouvé un tel ressentiment à l'égard de Charles. À présent, chaque fois qu'elle le voyait, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette nuit qu'ils avaient passée ensemble et rageait de le voir continuer de se comporter avec elle comme... Comme avec une simple amie. Bon sang! Mais pour l'instant, tu n'es que lui, fit la petite voix autoritaire qui s'invitait dans sa tête à la moindre occasion. Et à qui la faute? Hein? Quand arrêteras-tu d'espérer vivre une idylle avec un homme inaccessible? Une larme roula sur son visage. Dire que Charles devait être confortablement installé près du feu dans le pub.
C'est fermé, fit Charles derrière elle. Il n'ouvre pas avant midi. Sonne. « J'ai besoin d'un café. Je le ferai moi-même s'il le faut. »« Tiens, une énorme goutte de pluie a saccagé ton maquillage. »
Il tamponna sa joue avec un mouchoir impeccable, sourit et posa un petit baiser sur le bout de son nez.
« Allez !»
Mais la porte du presbytère s'ouvrit avant qu'Agatha appuie sur la sonnette, laissant apparaître Molly. « J'ai entendu des voix et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir qui c'était. Entrez !» Agatha fit les présentations. « Sœur, vous dites, par hérédité ou bien vous avez graissé la patte du Premier ministre ?»«
Quel accueil chaleureux! Vous vous êtes donné le mot ce matin !»
fit Charles d'un ton plaintif.
« Héréditaire, je suis baronnet. »«
Désolé, venez dans la cuisine. La cuisinière à bois fonctionne très bien, grâce à votre technique, Agatha. Le bureau est plus agréable, mais Rory écrit son serment. Il ne veut pas être dérangé. » Molly servit le café avec des biscuits Garibaldi, tandis qu'Agatha lui racontait l'épisode de la mystérieuse voix entendue dans la cheminée de sa chambre d'amis. « Quelqu'un sait que vous enquêtez ? Ça n'a pas traîné. »« Regardez, » dit-elle en sortant une feuille pliée de sa poche. « Il faut que j'aille montrer ça au commissariat, mais j'attends un peu. L'idée d'un nouvel interrogatoire me donne envie de me taper la tête contre les murs. » Agatha fouilla dans son sac à main XXL et en sortit une paire de gants en latex. C'est un peu tard pour s'inquiéter des empreintes, j'en ai bien peur, dit Molly. Mais j'aurais dû y penser. Pas question d'y laisser les miennes, dit Agatha.
Moi aussi, j'ai eu ma dose d'interrogatoire.
Sur la feuille, un message tapé en grosses lettres capitales. Dites à la détective d'oublier son enquête, sinon elle meurt.
Je me demande comment ils l'ont su,
lâcha Agatha. Edward Chumble?
Ça m'étonnerait. Il ne l'a pas dit, mais je suis sûre qu'il veut que je mène l'enquête pour en tirer toute la gloire.
Tony est censé aller chez lui ce matin avec les contrats, qu'il ne voudra peut-être pas signer d'ailleurs. On devrait la retrouver là-bas au cas où elle aurait besoin d'aide.
Au même moment, Edward Chumble, posant devant sa cheminée un sourire paternaliste aux lèvres, se vantait auprès de Tony Gilmore, la jolie blonde qui travaillait pour Agatha, d'avoir joué les détectives lorsqu'il officiait comme ambassadeur de Grande-Bretagne.
« Ambassadeur ?» songea Tony. « Surprenant pour un homme qui parle d'une manière si peu distinguée. On dirait Boris Johnson sous amphétamine. »
Quelqu'un sonna à la porte, interrompant son verbiage.
« Qui que ce soit, je vais m'en débarrasser !»
glissa-t-il avec un sourire qu'il imaginait coquin. Tony laissa échapper un petit soupir de soulagement lorsqu'il revint avec Agatha et Charles.
« Nous nous sommes permis de venir car j'ai reçu des menaces de mort !» déclara Agatha. « Cette enquête dérange !»
« À qui avez-vous dit que j'étais sur l'affaire ?»«
Seulement à ma femme. Ah, je l'entends qui arrive !»
Du dehors parvint le bruit de dérapage d'une voiture suivi d'un crissement de frein. Un jet de gravillon termina sa course sur les carreaux des fenêtres, arrachant une grimace à Sir Edward. Tiffany fit irruption dans la pièce dans des effluves de Miss Dior mêlées à une haleine de jean. Sans prêter la moindre attention aux visiteurs, elle lança.
« Écoute-moi bien, Edward, ce trou à rat, moi j'en peux plus !»
Puis remarquant Charles, elle se tourna vers lui.
« Vous êtes ?»«
Sir Charles Fraze. »«
Vous vivez dans le coin ?»«
Dans le Warwickshire, oui. »«
Il faut nous inviter dans ce cas. Et vous autres, que faites-vous ici ?»«
Voici Agatha Raisin. Je l'ai engagée pour enquêter sur ces meurtres. Et là, c'est Miss Tony Gilmore, son assistante. »«
Pouf ! Totalement inutile, »
railla-t-elle. « Je sais qui a fait le coup, moi. »« Bien sûr, »
siffla son mari sur un ton rageur.
J'ai besoin de soleil, emmène-moi à Venise, je te dirai tout. Hors de question. Miss Gilmore, vous avez tous les documents signés, mais j'espère bien vous revoir sans tarder.
Ciao!
Vociféra Tiffany en quittant la pièce à toute vitesse. De nouveau, crissement des pneus, jet de gravillon, vrombissement de moteur.
On dirait que les sorcières ont renoncé à leur balai,
chuchota Charles à l'oreille d'Agatha.
Je passerai à votre agence demain pour savoir où vous en êtes.
Conclut Edward. Demain, ce sera beaucoup trop tôt, pensa Agatha. Mais, espérant rattraper Tiffany, qu'elle devinait sur le chemin du pub, elle se contenta d'un rapide « avec grand plaisir ». Il les raccompagna à la porte et embrassa Tony sur la joue avant qu'elle puisse lui échapper.
« Horrible, ce vieux !» gémit Tony une fois dehors. « Comment vous faites pour le supporter ?»
Agatha fit la moue. Même si Edward lui semblait avoir environ 70 ans, soit un âge beaucoup plus avancé que ses 53 ans, elle commençait à redouter la vieillesse. Les gens disent qu'à 50 ans aujourd'hui, on est aussi en forme qu'on l'était à 40 il y a 20 ans. Mais c'est une ineptie. À 40 ans, on n'a pas de moustache qui pousse, ni la taille qui s'épaissit à la seule vue d'un gâteau à la crème.
Tant qu'il paie, dit Agatha, il veut jouer les Hercule Poirot, qu'à cela ne tienne.
Et puis il m'intrigue ces deux-là. Ça m'étonnerait que Tiffany soit sa première femme. Je ne la vois pas du tout dans le rôle de Madame l'ambassadrice.
La précédente a dû prendre ses jambes à son cou quand elle a compris qu'elle allait se retrouver en pleine pampa dans un ancien satellite russe.
Je me demande où il était avant ça.
J'ai cherché,
clama Tony,
à Innocence, la capitale d'Ougmouzoma.
C'est où ça?
En Afrique, au beau milieu de nulle part.
Et pourquoi diable le ministère des Affaires étrangères y mettrait une ambassade?
Le pétrole.
Bon, retrouvons Tiffany. Je suis prête à parier qu'elle est allée au pendu.
Agatha passait la première quand elle entendit taper à la vitre de sa voiture. Elle se tourna et devint rouge pivoine.
Charles, elle allait l'oublier.
C'est un début d'Alzheimer,
ironisa-t-il.
J'avais la tête ailleurs,
répondit Agatha avec humeur.
Je le connais.
Quelle imagination!
C'est drôle quand même. Chaque fois que quelqu'un commence à te trotter dans la tête, je n'existe plus. Au mieux, je fais tapisserie.
Espèce d'idiot, gloussa Agatha.
Une très belle tapisserie alors.
La vérité, c'était qu'Agatha ne rêvait que d'une chose. Tomber de nouveau amoureuse.
Oh, pas de Charles, non. Un jour, sûrement, dans un futur proche d'ailleurs, il viendrait lui annoncer ses fiançailles avec une jolie poupée pleine aux as. Quand l'amour, qui chez Agatha virait à l'obsession, toquait à sa porte, elle l'accueillait comme une drogue et se laissait draper de son éclat chaleureux et protecteur. Tiffany était déjà installée dans un coin du pub où elle parlait avec animation à un jeune couple lorsque Charles et Agatha y arrivèrent, Tony ayant préféré retourner au bureau.
« Regarde-la, on dirait Barbie au test de l'air, » dit Charles.
« Parle moins fort, on ne sait jamais quand la police du politiquement correct va frapper. » « Tu sais que dans le Nottinghamshire, siffler une femme dans la rue est considéré comme un délit. Si tu veux parler d'une hôtesse de l'air, tu évites la comparaison avec Barbie. »«
Hôtesse de l'air est en soi politiquement incorrect, il me semble. On doit dire personnel navigant, non ?»«
Comment tu sais ça, toi ?»«
J'en ai fréquenté quelques-unes, tu me connais. » »«
Boucle-la, Tiffany nous fait signe. »« Asseyez-vous et mettez fin au débat qui nous agite, voulez-vous ?»
Un baronnet qui joue les détectives, qu'est-ce que ça cache?
Benji dit que c'est parce que vous êtes en couple avec madame, ce que je trouve parfaitement ridicule.
Brenda pense que vous êtes un des bons samaritains du comté.
Moi, je dis que vous ne roulez pas sur l'or et que c'est une façon comme une autre d'arrondir vos fins de mois.
Du calme, Agatha,
dit Charles d'un ton sec, devinant à son air mécontent qu'elle était à deux doigts de partir.
Un gin tonic te déridera sûrement.
Charles alla commander au comptoir. Agatha se reprit et adressa au trio son sourire le plus charmant. En réalité, elle ressemblait à un crocodile qui a repéré une proie facile.
« Dites-moi, Tiffany, commença-t-elle d'une voix douce, vous n'auriez pas été hôtesse de l'air dans votre jeunesse? Charles dit qu'il ne vous manque que l'uniforme. Je ne suis pas du tout convaincue. »
La remarque amusa follement Brenda et Benji.
J'ai été personnel navigant pour la Pan World Airlines.
Alors vous avez rencontré Sir Edward dans les airs?
Non, non. Nous nous sommes rencontrés au Suprême Hôtel au Caire.
Je vous trouve bien impoli. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour mon mari que vous pouvez vous permettre d'être impertinente. Charles revint avec les boissons et commença à puiser dans son stock d'anecdotes pour divertir la compagnie sous l'œil observateur d'Agatha. Benji et Brenda. Probablement le duo frère-sœur convié au dîner chez Sir Edward le soir où le corps de Margaret avait été trouvé. Ils ne se ressemblaient pas. Brenda avait ce qu'on appelle une allure chevaline. Visage fin et anxieux, grande main, grand pied. Son frère était mince avec une abondante chevelure blonde et de grands yeux bleus. Les deux rides profondes qui encadraient sa bouche et l'allure de méfiance dans son regard indiquaient qu'il était plus vieux qu'il n'en avait l'air.
« De nos jours, on peut donner un coup de jeune à n'importe quelle partie du corps », songea Agatha, « sauf au regard. »
Tiffany s'est fait ravaler la façade, mais son âge se lit dans ses yeux. Elle regarde Charles et fait mine d'écouter, mais elle a l'air triste. Et de fait, Tiffany repensait à ce séjour au Caire, où elle s'était retrouvée coincée au Suprême Hôtel, à la suite de la faillite de la compagnie aérienne qui l'employait. Edward, qui était en congé, avait essayé de la draguer la veille au soir, mais elle l'avait repoussée car elle venait de ferrer un homme prêt à payer sa première incursion dans le monde de la prostitution, une expérience qui s'était avérée brutale et cruelle. Après ça, elle avait vu en Edward une véritable bouée de sauvetage. Sachant qu'il officiait comme ambassadeur au beau milieu de l'Afrique, le nom du pays était imprononçable, elle avait misé sur l'élégance. S'était inventé une belle demeure, des chevaux et des chiens de chasse, le tout parti en fumée parce que son pauvre papa avait tout perdu lors de la faillite de la Lloyd's. Il est vrai qu'avec sa silhouette élancée, son épaisse crinière blonde et sa moue boudeuse, elle correspondait davantage à l'image qu'Edward se faisait de l'épouse idéale. Son ex-femme était petite et grassouillette. Il savait qu'il aurait bientôt une nouvelle affectation. Il rêvait d'une capitale, Paris ou Rome. Alors, ils s'étaient mariés. Tiffany avait supporté l'enfer de la brousse africaine, les mouches, le regard vide des gosses rendus sauvages par la violence dont ils étaient victimes dès leur plus jeune âge. Puis, la nouvelle affectation était tombée. Un terrible coup.
« Où on va ?» avait demandé Tiffany.
« À un autre trou paumé, » avait répondu Edward. « Qu'est-ce qui vous a amené dans les Cotswolds ?»
s'enquit Charles, ramenant Tiffany dans le moment présent.
« C'est une région magnifique.
Edward adore Agatha Christie et dans son esprit, la vie de village n'a pas changé d'un iota depuis 1930. On prend le thé au presbytère, entouré de domestiques qui s'affairent. C'est bien simple, la vie d'aujourd'hui, il ne veut pas en entendre parler.
Il a peut-être vécu des choses traumatisantes en Afrique, suggéra Agatha.
Je crois que c'est le cas, pour tout vous dire. Remarquez, entre les estropiés et les rebelles qui sèment la terreur, n'importe qui serait traumatisé.
Mais l'ambassade servait de pied à terre à tous les magouilleurs du pétrole.
Edward a disparu pendant 2 jours. Vous auriez vu la panique. Ils l'ont retrouvé en pleine jungle, fiévreux et délirant. Depuis, il a fait un bond dans le passé. Parfois, il parle de sa vie pendant la guerre. Mais en 1939, il était à peine né. J'ai émis l'idée qu'il consulte un psychiatre, mais il s'y refuse. À votre place, ma chère, je prendrai mes jambes à mon cou.
Prise d'un élan de compassion pour Tiffany, Agatha songea qu'elle avait dû être une très jolie fille, le genre à s'imaginer que son joli minois lui suffirait.
« Ça ne doit pas être simple aujourd'hui d'être détective privé, non ?» fit Benji.
« Je veux dire, à l'ère de l'ADN et autres technologies de pointe, vous ne bénéficiez pas des mêmes outils que la police. »
« Mais nous n'avons pas toute la paperasse, la bureaucratie extrêmement hiérarchisée. Et si on ne résout pas les affaires qui nous sont confiées, on ne rentre pas un centime. »
Ça motive, ce qui n'est pas le cas de l'agent lambda qui garde son emploi, quels que soient ses résultats.
En parlant de nos amis de la police, qu'est-il arrivé à Tourette?
De toute évidence, il furetait dans le cottage de Margaret quand quelqu'un l'a assommé avant de lui couvrir la tête et de le pendre à cet arbre pendant qu'un de ses collègues s'empiffrait de hamburger au resto-route. Vous en savez davantage?
Lady Edward, vous disiez savoir qui était l'assassin.
Vous nous mettez dans la confidence?
Tiffany, elle est avouée qu'elle n'en savait rien, mais un groupe de journalistes entra dans le pub avec à leur tête le reporter de Morning Britain, Jerry Leach. Il se dirigea droit sur leur table.
« Ne serait-ce pas la magnifique Lady Edward, la seule, l'unique? Songez à nos lecteurs penchés sur le journal du matin et son cortège de nouvelles toutes plus moroses les unes que les autres, tombant sur la photo d'une ravissante blonde. » Quelle bouffée d'oxygène leur offririons-nous, n'est-ce pas?
En voilà un qui s'en mettrait plein les poches s'il pouvait vendre ses compliments en bouteille, pensa Agatha en voyant Tiffany rajeunir de 10 ans sous ses yeux.
C'est bien moi, fit cette dernière en rejetant la tête en arrière avec un grand sourire.
Allons dehors, l'exhorta Jerry. Ça ne sera pas long.
Suivons-la, chuchota Agatha à l'oreille de Charles. Si elle sait quelque chose, ce qui m'étonnerait, elle le dira peut-être à la presse.
Tiffany ouvrit son long manteau en cuir et prit la pose près de l'étang, une jambe en avant.
Si Jerry songe à un titre laissant entendre qu'elle connaît l'identité du meurtrier, il ferait mieux de lui demander d'effacer ce sourire de son visage.
Les autres journalistes avaient suivi Jerry jusqu'à l'arbre. Les flashs crépitaient, les caméras de télévision ronronnaient, tandis que Tiffany, rayonnant d'une nouvelle jeunesse, virevoltait tel un mannequin.
« Je tiens à consulter mon époux avant de révéler quoi que ce soit, » dit-elle. « Revenez demain. »«
Tu ne crois pas que Sir Edward est un vieux snob ?» demanda Charles.
« Ah oui ?»«
Donc il a très probablement tenu à s'informer sur le passé de Tiffany. » »«
Oui, mais comme elle en avait sûrement conscience, elle a dû lui passer la corde au cou à la vitesse grand V. »
Sir Edward, qui n'avait pas complètement perdu la tête, apprit sans tarder que sa femme comptait révéler l'identité du meurtrier à la presse le lendemain.
Il s'emporta si fort contre elle qu'elle finit par dire d'un air boudeur qu'elle allait rendre visite à une vieille amie à Londres.
Agatha et Charles, quant à eux, décidèrent de retourner au presbytère. Molly les précéda dans la cuisine.
« Je suis contente que vous soyez là. Bon, je ne peux pas vraiment vous aider car je ne sais pas grand-chose sur Margaret Darby. » En dehors du fait qu'elle s'occupait des fleurs et des cuivres à l'église. Mais la femme de l'ancien pasteur est toujours en vie. Elle est dans une maison de repos, du côté de Broadway.
« Comment s'appelle-t-elle ? » demanda Agatha.
« Dolly Tart. Dolly est un diminutif pour Dorothy, je crois. Mais difficile d'en être sûre. Aujourd'hui, les parents donnent des surnoms en guise de prénom.
Au moins les miens m'ont appelé Mary.
Bref, vous la trouverez à la Dunmore Nursing Home sur la route de Cheltenham.
Très bien, on va y aller. »
Vous partez déjà?
Je ne suis pas rassurée.
Je vais rester, proposa Charles gaiement.
Vas-y, file, Aggy.
Agatha regarda Charles avec son air félin, puis la magnifique Molly.
Où est Rory? Demanda-t-elle à Molly.
À Hondecombe, il rend visite à une vieille dame malade. Comment ne pas se sentir dévalorisée, soupira Agatha pour elle-même en partant. La beauté l'emporterait toujours. Avant toute chose, elle passerait à l'agence pour savoir ce que les autres fabriquaient. Quand elle arriva, elle trouva sa petite équipe réunie au grand complet dans l'espace réservé aux visiteurs. Il y avait Tony, bien sûr, mais aussi Patrick Mulligan, l'ancien policier, Phil Marshall, l'adorable vieux monsieur, Simon Black, le jeune gothique, et Mrs. Friedman, la secrétaire. Installée autour de la table basse où était posée une grosse boîte de donuts enrobée de sucre, il ne respirait pas la joie de vivre. « Pourquoi personne n'est au travail ?» demanda Agatha. Eh bien, il se trouve qu'on a tous bouclé les dossiers sur lesquels on travaillait en même temps, et comme Mrs. Friedman a apporté des donuts, on a décidé d'en déguster quelques-uns avec un petit café, avant de passer à la suite, dit Tony. Servez-vous.
C'est curieux, songea Agatha.
Rien qu'à regarder un beignet au sucre, je me sens serrée à la taille, comme si on m'avait glissé tout entière dans un tensiomètre géant. L'âge. Oh, et puis zut, elle en choisit un bien gras et s'enfonça dans le sofa avec un soupir.
« Où est Charles ?» demanda Tony.
« Juste derrière vous, » dit Charles. « Pousse-toi un peu, Aggie, ces donuts ont l'air délicieux. »«
Tu n'es pas resté avec Molly, finalement ?»«
Elle avait une visite à faire, comme un médecin. »
En réalité, aussitôt Agatha partie, elle lui avait dit
« Bon, vous avez essayé de rendre Agatha jalouse, ça n'a pas marché. » Alors maintenant, vous pouvez y aller. Sachez que je n'aime pas du tout vous voir jouer au chat et à la souris.
Charles avait nié. Comment pouvait-on le soupçonner d'attacher suffisamment d'importance à Agatha pour renoncer à jouer les jolis cœurs?
À moins que...
Il la regarda d'un air perplexe.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le nez? Demanda Agatha.
Non, rien. Si tu as fini de t'empiffrer, on pourrait peut-être y aller.